Bonjour à tous et à toutes, frères et sœurs, je vous souhaite un très agréable sabbat. Dans le film du cinéaste américain Cecil B. DeMille, Les Dix Commandements, réalisé en 1956, on voit un certain nombre de scènes particulièrement saisissantes, déjà avec les moyens techniques de l'époque, sans commune mesure, bien sûr, avec ce qu'il serait possible de faire aujourd'hui, étant donné les développements technologiques et médiatiques depuis. Il y a presque maintenant 70 ans que ce film a été publié, et on se rappelle en effet les scènes classiques des 10 plaies d'Égypte, du passage de la mer Rouge, du départ de la nation d'Israël en direction de la terre promise, et aussi la scène des 10 commandements édictés par Dieu lui-même au mont Sinaï, écrit du doigt de Dieu sur les tablettes de pierre. Et il existe dans la Bible un grand nombre de tableaux, tous plus époustouflants les uns que les autres, jusqu'au paroxysme du livre de l'Apocalypse, où, notamment, le retour glorieux de Christ, notre Sauveur, y est décrit. Mais il y a pourtant, dans l'Écriture sainte, une scène tout à fait saisissante, et qui se distingue vraiment des autres. Je veux parler de la vallée des ossements. Jamais personne n'a vu une telle chose, mis à part bien sûr le prophète qui l'a édicté. Il s'agit là aussi d'un événement futur. Je veux parler donc de cette vallée des ossements dans le livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Et à ce jour, il n'existe à ma connaissance aucune production cinématographique qui reproduit cet événement vraiment marquant, vraiment étonnant, tel qu'il est décrit dans la parole de Dieu. Peut-être y a-t-il encore quelques photos ou quelques brèves illustrations que l'on pourra trouver sur Internet. Mais pourquoi cette vallée des ossements serait-elle plus importante que ces scènes cultes du film Les Dix Commandements? Eh bien, c'est que, voyez-vous, la vallée des ossements résume symboliquement, le merveilleux plan de Dieu. Cette scène matérialise en effet, en quelque sorte, le parachèvement du plan de Dieu, son aboutissement sur le plan symbolique. Cet événement est traditionnellement célébré lors du jour qui est appelé le dernier grand jour. Et c'est le moment futur lorsque l'humanité va ressusciter et va donc revivre, va donc retourner à la vie. Que dit le récit du prophète Ézéchiel sur cette vallée des ossements? Reportons-nous au livre d'Ézéchiel, au chapitre 37. Ézéchiel, après, donc dans la section des grands prophètes, ou des prophètes majeurs, Ézéchiel, chapitre 37, et commençons la lecture au verset 1. « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux, à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » Verset 3, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? » Et je répondis, « Seigneur Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Verset 8, je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'il revive. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 11, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi ainsi, dit l'Éternel. Imaginez un instant le film de cette scène, ce que les cinéastes pourraient faire, les studios professionnels, ce qu'ils pourraient décemment produire, tout en restant fidèlement et strictement fidèles au texte de la Bible. Mais encore une fois, il faut réaliser la portée de ces paroles, la portée incommensurable, immense de cet événement. Oui, incommensurable, ça dépasse tout ce que nous pouvons imaginer ou prédire. En un mot, commençons, l'humanité a un avenir, et un avenir merveilleux. Car aussi désespérante, aussi misérable que puisse être la situation actuelle, la réalité de la mort, ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas la fin du monde, la destruction totale, non. C'est la fin d'une époque, avec la résurrection qui vient après, mais c'est un nouvel âge, c'est l'espoir. Tous, nous vieillissons, et plus nous vieillissons, plus nous nous rapprochons des derniers instants de notre vie. C'est une fatalité, nous le savons. Ces choses sont ainsi. Mais la Bible nous révèle que Dieu a un plan, et un plan pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous a pas créés pour qu'un jour nous connaissions la mort ad vitam aeternam, pour l'éternité. Non. Il n'en était pas ainsi au commencement. Déjà, l'homme n'était pas destiné à la mort du tout. Certes, nous mourrons tous, mais telle n'était pas l'intention de Dieu au début. Il n'était pas dans l'intention de Dieu de mettre un terme à nos existences. Les tout premiers êtres humains, Adam et Ève, ont désobéi, et donc au fil du temps, ils ont vu de terribles conséquences déferler sur eux et sur leurs descendants, sur leur progéniture, sur la famille humaine, et au final, sur nous tous. Tous, nous nous sommes rendus coupables, individuellement, des mêmes méfaits que ceux de nos premiers parents, globalement, je parle, la plupart du temps, sans même nous rendre compte que nous agissions mal, nous avons péché. Nous avons transgressé la loi de Dieu. Nous ne sommes pas les descendants d'animaux. Nous ne sommes pas les descendants de bactéries, de protozoaires, ou que sais-je encore. L'être humain est beaucoup trop intelligent. Son esprit est beaucoup trop puissant et ingénieux pour que nous puissions le comparer de près ou de loin à ce que le monde animal a de meilleur à nous proposer aujourd'hui. Le règne humain a toujours été complètement différent du règne animal, c'est une évidence. L'homme et la femme ont été créés par Dieu à l'image de Dieu. Ainsi, par la grâce de Dieu et par le sacrifice miséricordieux du Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus, nos vieux os revivront un jour pour devenir, au moment de la résurrection, selon les cas et selon les circonstances, soit un nouveau corps physique, soit un nouveau corps spirituel, d'ores et déjà. Nés à ce moment-là, et je parle ici du corps spirituel, naît dans la famille de Dieu, avec Dieu, au moment de la meilleure résurrection. Et cet ultime espoir est réservé à tous les êtres humains existants ou ayant existé, ceux qui désireront voir ce magnifique événement se réaliser dans leur vie. Il y a un grand personnage de l'Ancien Testament qui déjà avait cet espoir, entre autres personnalités de l'Ancien Testament. Et lui, il a nourri cet espoir, il a nourri cette espérance en donnant des instructions spéciales, en quelque sorte ses dernières volontés, concernant son corps après sa mort. Il a voulu faire cela. Et je veux parler du patriarche Joseph, le fils de Jacob, le fils d'Israël, qui, tel que nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux et au verset 22, donna des ordres relatifs à ses propres ossements. Ce récit donc sur les ossements de Joseph dans le Nouveau Testament, nous le retrouvons bien entendu dans l'Ancien, il contient une profonde leçon spirituelle pour nous tous, pour les chrétiens aujourd'hui. Alors, lisons ce court verset dans Hébreux chapitre 11 et le verset 22. Épître aux Hébreux, chapitre 11, le chapitre de la foi, et le verset 22. C'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. Il y a ici une leçon de foi tirée de la vie de Joseph. Que pouvons-nous apprendre de la vie de Joseph? Que pouvons-nous apprendre de sa vie et en particulier de ses dernières volontés sur ses ossements concernant son corps? La plupart d'entre nous connaissent bien l'histoire inspirante de Joseph, trouvée dans le livre de la Genèse, et c'est au chapitre 37 que nous trouvons ce récit montrant déjà le jeune homme qu'il était, comme étant le fils préféré de Jacob. Jacob, son père. Dieu a choisi Joseph, dans un but très spécifique. Joseph pensait naïvement que le reste de la famille serait heureux d'apprendre que lui, Joseph, avait eu des rêves, des songes, et qu'ils aimeraient bien entendu en être intéressés, en entendre parler, avoir des détails. Joseph avait beaucoup de talent. Il avait beaucoup de talent. C'était un garçon extrêmement intelligent, et comme toutes les personnes qui ont des talents, il en avait conscience. En lisant l'histoire de la vie de Joseph, nous en venons à constater un certain nombre de qualités essentielles qui se dégagent de sa vie. Alors j'aimerais reprendre une par une ces qualités et les exposer parce que nous devons bien comprendre qui était Joseph et le portrait qu'il donne de lui aujourd'hui et le symbole qui est important pour le chrétien aujourd'hui. Premièrement, Joseph avait un grand respect pour son père, un grand amour pour lui. On pourrait peut-être dire, mais c'était facile pour Joseph d'aimer son père, Jacob, puisque déjà, nous le lisons dans Genèse chapitre 37, il recevait de lui déjà beaucoup d'affection. C'était en quelque sorte le fils préféré. Il avait cette affection paternelle plus forte que celle que ses frères pouvaient avoir, exprimé par exemple avec cette magnifique tunique multicolore célèbre que Joseph va recevoir de Jacob, son père. Il avait avec son père un degré de communication exceptionnel. Joseph a su en effet exprimer son respect d'une façon marquée, d'une façon sincère avec son père. Par exemple, il rapportait à son père les mauvais propos qu'il entendait. Joseph était donc loyal. Il était loyal envers son père, et la loyauté, c'est une question d'amour. C'est une question de respect, notamment pour un père. Deuxièmement, Joseph était un garçon courageux. Quand il était un jeune adolescent, déjà, Joseph savait que ses frères ne l'aimaient pas. Mais et nous le lisons d'ailleurs au verset 4 du chapitre 37, parce qu'il réalisait que Joseph était justement ce fils préféré dont je parlais, le fils préféré de leur père, Jacob. Et donc, Joseph va souffrir d'un manque de respect évident de la part de ses frères. Il y aura une absence d'amitié, une absence de considération, voire même, disons-le carrément, un certain mépris. Et nous verrons que cela va même tourner jusqu'à la haine. Au verset 4 et au verset 5, cette haine, déjà, nous le lisons, va devenir de plus en plus forte. Mais Joseph ne craignait pas les pressions de ses grands frères outre mesure. Il ne manquait pas non plus d'une certaine audace, d'un certain aplomb pour rappeler encore ses rêves qui finissaient par très franchement énerver ses frères. Mais Joseph ne se laissait pas faire. Il n'avait que faire, que penser de ses attitudes. Pour lui, c'était secondaire. Peut-être manquait-il de prudence, malgré tout. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, dans Matthieu, chapitre 18, verset 15, que se passe-t-il quand quelqu'un vient nous faire une offense? Quand quelqu'un vient nous offenser, volontairement ou involontairement, lorsque nous avons un différend avec quelqu'un, comment devons-nous réagir? Devons-nous laisser les choses se passer ainsi? Christ est très précis. Il est dit dans Matthieu chapitre 18, verset 15, « S'il refuse de t'écouter, prends des témoins avec toi, et s'il refuse de les écouter eux, il est dit, dis-le à l'Église. » Je parle en substance, donc, de ce verset. Qu'est-ce que cela veut dire, dis-le à l'Église? On va le dire à tout le monde? Non. Ici, il est question d'agir avec prudence. Il faut le dire avec quelqu'un, il faut en parler avec quelqu'un qui a cette autorité. Donc évidemment, c'est le pasteur qui va pouvoir recueillir ce qui se passe. Et comme Joseph rapportait à son père les mauvais propos dans sa famille, qu'il entendait dans sa famille, eh bien, lorsqu'on vient nous faire une offense, ou lorsqu'on a eu un propos offensant, et qu'on a fait connaître à cette personne ce qui se passe, si on constate que les choses continuent, il faut prendre un témoin, et si malgré tout, tout continue encore, il faut alors en parler aux responsables de l'Église, aux pasteurs. Et c'est-à-dire, donc, à cette autorité dont je parlais. Il n'est pas question ici de répandre une mauvaise réputation aux oreilles de qui veut l'entendre dans la congrégation. Non. Ou pour le simple plaisir malin de vouloir le faire. Le pasteur est au courant, c'est ce qui compte. La personne ne veut pas s'en repentir, il y a une mauvaise attitude, il y a des mauvaises choses qui se passent, ouvertement c'est clair, on a fait des tentatives pour parler en privé, avec beaucoup de patience, il faut donc faire une étape, passer par une étape définitive, mettre au courant le responsable de la congrégation. Le pasteur sait, c'est son métier, il sait prendre les dispositions qui conviennent selon les circonstances, selon les cas, et sachant que lui, a priori bien sûr, il connaît bien sa congrégation, et notamment il connaît bien cette personne. Il connaît les détails de sa vie, il sait aussi les difficultés par lesquelles il ou elle passe, ses faiblesses, ses défis. Et dans le cas de Joseph, j'y reviens, c'était la même chose. Le patriarche Jacob savait donc ce qui se passait, c'était l'essentiel, Joseph n'allait pas en parler à tout le monde. Il nous est dit que c'est au patriarche que Joseph rapportait ces choses. Joseph agissait déjà d'une façon juste et d'une façon courageuse. Il aurait pu laisser les choses se passer ainsi et voir ce qui allait se passer. Non, il a pris les choses à cœur, il a pris les choses entre ses mains, il a senti la responsabilité qu'il avait et il n'a pas fait n'importe quoi avec ces choses. Il les a confiées à son père. Il savait cependant ce qu'il risquait. Il savait, mais ses frères pourraient se demander, mais qui a fait connaître à notre père telle ou telle chose? Il était donc courageux. Et puis, Joseph avait aussi une autre qualité particulièrement intéressante. C'était une personnalité industrieuse. Il avait le sens de la gestion, le sens du travail bien fait. Joseph était un jeune homme travailleur. Notamment entre les versets 2 et 6, dans Genèse chapitre 39, deux chapitres plus loin, nous lisons ceci. Genèse, chapitre 39, les versets 2 à 6. L'Éternel fut avec lui, Joseph, et la prospérité l'accompagna. Alors là, ici, le cadre de ce qui se passe, c'est que Joseph a été vendu par ses frères à des marchands d'esclaves, et il se retrouve vendu à un maître, à un officier de Pharaon, en Égypte. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar, c'est le nom de l'officier en question, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il, Potiphar, abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Donc nous voyons que vraiment la bénédiction de l'Éternel se place sur la maison de Potiphar pour littéralement bénir et accompagner donc Joseph. Grâce, le travail fructueux de Joseph est récompensé. Autrement dit, quand Potiphar revenait dans sa maison, après s'être acquitté de sa journée de responsabilité auprès du Pharaon, comme on dit en français, il n'avait plus qu'à se mettre les pieds sous la table. Tout était prêt, tout était fait, tout était arrangé, prévu, organisé. Potiphar faisait une entière confiance à Joseph. Et il n'avait même pas à s'occuper l'esprit avec des soucis inutiles. C'est cela, le vrai service. S'assurer que le responsable hiérarchique ou même notre conjoint n'aura pas à se soucier des choses que nous pouvions faire pour aider. Quand tout est fait et bien fait, quand rien ne manque, c'est là que, précisément, la confiance s'installe. Et c'était bien ce qui se passait dans le cas de Joseph. Il savait exactement ce que son maître voulait, donc il était intelligent, il savait ce que son maître attendait de lui, et même, ou attendait des autres, et même ce dont il avait besoin sans le demander. Alors là, c'est formidable. On sait déjà ce que la personne veut, parfois c'est pas le cas, hein, mais quand on médite sur ces versets, franchement, on comprend mieux pourquoi ses frères, notamment, ne l'aimaient pas beaucoup, ou que cela n'allait pas dans le bon sens de toute façon. Pourquoi ? Eh bien, parce que si Joseph se comportait déjà comme cela avec son père, comme il le faisait avec Potiphar, logiquement, c'est ce qui s'était passé. On peut donc imaginer qu'il y avait déjà de la jalousie parmi ses frères. Alors que, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Comment est-ce qu'ils auraient dû réagir en voyant Joseph ayant du succès auprès de son père ? Ils auraient dû faire ce à quoi ils, normalement, ce qu'ils devaient faire. Je spécule, bien sûr. Ses frères faisaient leurs tâches quotidiennes, mais à quel point le faisaient-ils ? Le faisaient-ils aussi bien que Joseph ? Étaient-ils relâchés dans leurs tâches ? Je spécule, bien sûr, je ne peux pas affirmer cela, mais il semble que Joseph avait beaucoup plus de succès que ses frères. Donc, logiquement, on peut se dire, mais peut-être que même Joseph faisait des choses que ses frères auraient dû faire. ce n'est pas quelque chose qui va forcément améliorer leur amitié, même s'il leur rendait service. Puisque là aussi, ils voient le succès de Joseph. Donc vous voyez, dans ces conditions, bien agir, ça peut parfois aussi apporter des problèmes, mais Joseph en avait cure. Pour lui, c'était une chose normale et il avait vraiment l'envie, il avait la motivation de faire ces choses. C'était son éducation et il avait prospéré dans cette éducation. C'est une leçon pour nous tous. C'est une leçon pour nous tous. Alors, bien sûr, en plus de la chemise multicolore que son père avait fait, il y avait d'autres choses qui déplaisaient à ses frères. Il y avait le détail de tous les rêves, j'en ai parlé, que Joseph avait plaisir à partager avec tout le monde dans la famille, dans sa famille à lui. Et puis, il faut aussi reconnaître que donc ces choses remplissaient ses frères de haine et de jalousie. Il faut aussi reconnaître que Joseph était promis à un destin spécifique. C'était le but de Dieu. Mais toutes ces choses ne sont pas venues comme ça, tomber du ciel ainsi. Comme nous le lisons dans l'histoire de sa vie, ses bénédictions sont en rapport aussi avec tout le zèle que Joseph a développé, tout le zèle qu'il déployait. Joseph était zélé et Dieu donnait du succès à ses entreprises. C'était donnant-donnant, c'était gagnant-gagnant. Dieu nous bénit toujours, mais il bénit aussi nos efforts, car nos efforts sont importants. Nous voulons, bien entendu, faire notre part. C'est pourquoi, dans notre recherche logique du succès, nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons plaire à Dieu, non pas pour nous servir, mais pour plaire à Dieu. Et donc, comme le disait M. Herbert Armstrong, nous prions avec foi, comme si tout dépendait de Dieu. Tout ce que nous pouvons recevoir dépendrait de Dieu, et nous prions ainsi. Tout ce que nous désirons dépend de Dieu. Et c'est vrai. Mais en même temps, en contrepartie, nous agissons, et c'est ce que disait M. Armstrong, comme si tout dépendait de nous. Tout ne dépend pas de nous, bien entendu, et nous le savons bien. Nous sommes faibles, nous sommes humains, et Dieu est celui qui nous bénit. Mais si nous agissons, et si nous faisons notre part comme si tout dépendait de nous, autrement dit, nous faisons notre part à 100%, ou 110%, nous faisons ce que nous pouvons, alors Dieu bénit nos efforts. Dieu bénit nos efforts. Et ce n'est pas faire offense à Dieu, bien entendu, que d'agir ainsi. Bien au contraire, nous agissons avec foi, en faisant notre part, en allant de l'avant. Voilà pourquoi la vie de Joseph a été exceptionnelle. Dieu, c'est vrai, avait un destin spécial. Il l'a placé en Joseph, pour Joseph. Mais Joseph ne se reposait pas sur ses lauriers. Tout va venir, c'est bon, on peut se reposer un petit peu. Non, il était travailleur, il était courageux. Et en plus, il ne s'arrêtait pas à ses différentes épreuves. Ça ne l'arrêtait pas. Il continuait. Il avait donc foi en Dieu. Dieu allait faire avec lui un bout de chemin, un chemin qui allait se poursuivre de plus en plus loin. De plus en plus loin. Test après test, épreuve après épreuve, avec des signes d'encouragement, bien sûr, avec des bénédictions. La vie de Joseph est tellement encourageante. Et sincèrement, sa vie, il faut le reconnaître, est une des plus belles histoires trouvées dans la Bible. Et c'est même l'histoire, d'une certaine façon, du peuple de Dieu, quand on y pense. Le peuple de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, quand on médite sur ces chapitres, l'Église. L'histoire passée de l'Église de Dieu, mais aussi l'histoire présente et même l'histoire future dans le royaume de Dieu. Pourquoi ? Joseph est devenu la deuxième personnalité d'Égypte, rappelez-vous. Il était juste après Pharaon, lorsqu'il, dans la suite de l'histoire. J'ai parlé de Potiphar, Mais lorsqu'on lit les chapitres 37 à 41, on voit la continuité des bénédictions jusqu'à atteindre le trône de l'Égypte. Joseph est devenu le premier ministre de Pharaon. Alors bien sûr, dans le cas de Joseph, nous voyons une illustration physique du destin merveilleux de tous ceux qui se sont endormis dans la foi et qui n'ont pas encore reçu les promesses. Une autre qualité vraiment exceptionnelle de Joseph, c'est sa résistance à la tentation. Et là encore, c'est un exemple pour nous tous, bien entendu. Non seulement Joseph, nous l'avons vu, était travailleur, il était industrieux, mais l'un des domaines de notre vie, pour nous, parmi les plus importants, et peut-être le plus important, c'est notre lutte contre le péché. C'est notre désir d'être nettoyé du péché, et de surmonter et de vaincre le péché. Or, précisément, Christ, notre pasteur, notre berger, nous demande de vaincre le péché et de surmonter la tentation. Joseph avait ce caractère ferme. Il avait ce caractère résolu, déterminé en lui, qu'il fallait toujours résister à la tentation et ne pas baisser la garde. Ne pas laisser une chance à l'adversaire de s'infiltrer en nous, dans notre esprit. Joseph avait cette détermination en lui. Je continue, verset 6, Genèse chapitre 39, verset 6. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure, verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, autrement dit, j'ai pouvoir sur tout. Sauf, dit-il, toi, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je, notez-le bien, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu. Joseph a clairement vu le danger qui se présentait devant lui. Il n'y avait personne dans la maison. Et là, je prends un petit peu les devants. Comment ferais-je un aussi grand mal, dit-il, pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Mais un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Donc là, Joseph a vu le danger, il a vu comment les choses pouvaient se terminer et il a pris immédiatement cette disposition. Et son état d'esprit est très bien décrit. Il dit ceci, je le répète encore, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Il sait que s'il cède, s'il se laisse entraîner dans cette aventure, il risque d'affronter la mort, non seulement parce que c'est une très grave offense vis-à-vis de son maître, qui ne va pas lui laisser la vie, probablement, mais surtout parce que c'est un péché contre Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, Joseph a cette foi. Et il a justement, cette réponse face à la venue du péché, face à la tentation. Nous nous souvenons que la loi de Dieu prévoira et prévoyait déjà, sans doute, la peine de mort pour le crime d'adultère. Que fait-il? Il s'en va. Et il s'en va vite, il s'enfuit, car la femme de Potiphar est littéralement sur le point de s'emparer de son vêtement. Joseph le lui laisse d'ailleurs entre les mains. Il y a des situations que nous pouvons rencontrer dans notre vie quand nous devons prendre une décision rapide pour nous mettre en sécurité. Et je pourrais la comparer à celle d'un conducteur sur une route à flanc de montagne. Sur ces routes à flanc de montagne, il y a une barrière qui protège les véhicules sur cette route, de sorte qu'ils ne tombent pas dans le précipice. Le vide est juste derrière. Mais imaginez que dans un virage, là, il y a toute une section de barrière qui n'est plus là. Et donc, là, le précipice est juste de l'autre côté. Que fait le conducteur? Clairement, il voit qu'il y a un danger, il ralentit, et il va rester le plus loin possible de cette dangereuse situation. Et donc, il va s'écarter, s'éloigner de l'endroit difficile. Il va donc se mettre tout de suite en sécurité. Et c'était ce que Joseph faisait. Il avait ce caractère, il a vu le danger, et immédiatement il a pris la décision de s'écarter du danger sans chercher à se compromettre dans cette situation. Joseph restait éveillé, il restait sur ses gardes. C'est ça le point. C'est ce dont je veux parler. Il était constamment en éveil. Alors, constamment en éveil, pour nous, par exemple, il ne s'agit pas d'être constamment apeuré, ce n'est pas ce dont je parle. Il s'agit d'être guidé constamment par l'Esprit de Dieu qui nous avertit, qui nous protège, qui nous alerte du danger, et de répondre positivement, ne pas chercher à compromettre. L'apôtre Paul nous rappelle dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il dit ceci, Philippiens chapitre 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, c'est-à-dire avec des remerciements. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Chaque matin, quand nous prions, quand nous remercions Dieu, soyons sûrs de passer en revue nos armes, les armes de Dieu telles qu'elles sont décrites dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, rappelez-vous, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, le casque du salut, le bouclier de la foi qui éteint les traits enflammés du malin, et les chaussures du zèle, bien sûr. Toutes ces armes sont là pour faire face à l'adversaire, littéralement. Demandons le conseil de Dieu avec l'esprit qu'il nous donne. Demandons-lui sa protection, afin qu'il nous garde loin du danger, loin du péché. Cinquième qualité de Joseph, il faut le reconnaître, Joseph était quelqu'un de persévérant. Il ne s'arrêtait pas aux problèmes, nous l'avons vu, il ne s'arrêtait pas aux épreuves, aux tests. Et cette persévérance, nous allons la voir dans une condition qui est véritablement un test de patience. Joseph va se retrouver en prison, juste après cette fausse accusation de la femme de Potiphar sur Joseph, qui va fort heureusement ne pas conduire Potiphar à enlever la vie de Joseph, mais à le faire jeter en prison. Donc Joseph va se retrouver en prison, et pas en prison pour une semaine ou pour un mois, il va se retrouver en prison pour des années. Donc une grande injustice, une fausse accusation, une condition difficile à vivre. Pendant plusieurs années, Joseph va rester en prison, mais tout cela, c'est pour un dessein. Premièrement, il y a des leçons de patience, de persévérance, et puis il y a aussi un grand plan auprès de Pharaon que Dieu a prévu par la vie de Joseph. Et là aussi, c'est quelque chose de passionnant à lire. Pour les chrétiens aujourd'hui, pour les chrétiens même de tous les temps, depuis la vie et le ministère de Jésus-Christ sur terre, l'exemple de Joseph est très encourageant, extrêmement encourageant. Car, en effet, nombreux sont les chrétiens qui ont été persécutés au cours des âges, et aujourd'hui encore, qui ont été jetés en prison. Dans Genèse, au chapitre 39 et au verset 21-23, nous lisons ceci. Genèse 39, verset 21-23. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui, encore une fois. Donc, là, c'est quand même assez hallucinant. Joseph est un prisonnier, mais tous, le chef de la prison va lui faire confiance pour garder les autres prisonniers. Où voit-on cela dans la Bible, dans ce récit très particulier? Donc il fallait, il faut le reconnaître, un degré de confiance extraordinaire. Joseph montre ici la valeur de son caractère. Alors bien sûr, on pourrait imaginer, il y avait autour de la prison des gardes, Joseph n'aurait pas pu s'enfuir de toute façon. Oui, mais enfin quand même, le chef de la prison a entièrement confiance en Joseph. C'est un succès incontestable. Et c'est un succès qui va permettre deux choses dans le plan de Dieu. Donc là, on voit ici la main de Dieu, malgré tout. Cela va permettre quelque chose de très précis qui va être nécessaire pour l'application, pour la mise en pratique du plan de Dieu dans la vie de Joseph et dans la vie prophétique des événements pour Israël à cette époque. Premièrement, je le disais, Joseph va montrer la valeur de son caractère, la droiture, le zèle, la persévérance à bien faire, la patience pour supporter l'épreuve. Ce sont des exemples pour nous, bien entendu. Deuxièmement, le chef des gardes va placer sous la surveillance de Joseph deux prisonniers de marque. Deux prisonniers très spéciaux, deux officiers de Pharaon qui allaient avoir une conversation très spécifique avec Joseph, une révélation prophétique qui va impacter leur vie. Et nous lisons effectivement qu'ils ont des rêves, et que ces rêves, Joseph va leur en révéler la signification. Joseph est celui qui a reçu ce don de Dieu de pouvoir comprendre les visions, comprendre les songes, comprendre la signification des rêves. Cela va être d'une importance capitale, car plus tard, Joseph entendra le songe de Pharaon. Et il lui en donnera l'explication, et Pharaon rendra gloire à Dieu dans cet événement. Et sera particulièrement bon envers la famille de Joseph, envers la famille de Jacob, son père. Donc ici, nous lisons au chapitre 41 que Joseph répond au Pharaon en disant, justement au moment où Joseph va révéler la signification du songe de Pharaon. Il va dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et il ajoute verset 32, si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Donc on voit une expérience formidable de la part de Joseph dans son explication des rêves. Joseph ne fait pas les choses au hasard, il sait que les choses sont ainsi, il est aussi inspiré par Dieu pour dire ces choses. Donc en définitive, et en regard de toutes ces années de souffrance que Joseph, malgré tout, va devoir subir en prison, de tests de patience, de persévérance, nous voyons que Joseph sera extrêmement béni de son vivant, avec cette fois-ci de grandes réalisations. Là, il va devenir le premier ministre de l'Égypte, en quelque sorte. Il deviendra donc la seconde personnalité du royaume d'Égypte. Et il y a d'autres exemples bibliques d'épreuves, de récompenses, avec d'autres personnalités, bien sûr, dans la Bible. Prenons le cas, par exemple, de Job, dans le livre de Job, de Anne, par exemple, la mère de Samuel, avec Sarah, l'épouse d'Abraham, et bien d'autres encore, qui montrent des tests similaires de patience, de persévérance et de grandes bénédictions au final. Des bénédictions déjà déversées dans cette vie, mais surtout ce qu'il est convenu d'appeler les grandes, les plus grandes et les plus précieuses promesses qui, elles, sont gardées en réserve auprès de Dieu. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous reviendrons sur cette expression un petit peu plus tard. Donc, finalement, la vie de Joseph est un puissant encouragement pour nous tous à cet égard, et je suis sûr que pour moi, comme pour beaucoup d'entre nous, la vie de Joseph est l'un des récits ou l'un de nos récits bibliques préférés. Pour moi, ça ne fait aucun doute, et probablement pour vous aussi. Quelle vie, en effet, que la vie de Joseph. Quel formidable film en perspective cela serait. Vous savez, il y a des personnages dans l'histoire qui comparent leur vie à de véritables romans. C'est notamment le commentaire de Napoléon Bonaparte, qui disait « Quel roman que ma vie !» Et pourtant, elle ne s'est pas terminée d'une très bonne façon. Mais c'est ce qu'il écrivait dans son mémoire de Sainte-Hélène. Il faut bien reconnaître que dans le cas de Joseph, fils d'Israël, fils de Jacob, sa vie se place à un niveau absolument exceptionnel, bien plus grand encore, en termes d'accomplissement collectif, prophétique et même personnel sur le plan familial. Par exemple, sa vie se termine par des retrouvailles absolument merveilleuses. Tout le monde tombe dans les bras les uns des autres. Il y a des cris, il y a des pleurs, des cris de joie. C'est quelque chose qui est prophétique. C'est quelque chose qui nous parle parce que nous sommes dans l'attente de la résurrection de tous nos chers disparus. Et nous attendons ces moments merveilleux. Il y a aussi, dans la vie de Joseph, quelque chose de merveilleux. Quelque chose de formidable. Et on le voit, c'est cette tendresse d'esprit, ce désir de pardonner à ses frères. Joseph n'a pas cherché à se venger, comme on pourrait peut-être le penser, mais il va quand même donner à ses frères l'occasion de vivre une petite leçon. Il va leur donner une petite leçon qu'il va leur infliger. Nous le lisons au chapitre 42 et 43. Mais je ne crois pas que l'on puisse qualifier cela de vengeance. Joseph n'avait rien à gagner dans cette affaire. Vous savez, une vengeance, c'est souvent, tiens, tu m'as fait ça, ben moi je vais faire cela pour qu'il y ait un gain personnel. Non, sinon ce serait absolument de l'enfantillage. Mais là, Joseph, on le voit à travers ces lignes, va permettre des retrouvailles de valeur. Des retrouvailles de valeur. Et en plus, il va y avoir véritablement, il va montrer du respect et il va se faire respecter, en quelque sorte. Joseph va faire goûter à ses frères un extrait de la potion quelque peu amère qu'ils se sont permis de lui administrer, toute proportion gardée, bien sûr. Joseph n'a aucune intention dans ce qu'il va faire de leur faire du mal, nous le lisons immédiatement. Dans les lignes de ce texte absolument admirable, il va, en quelque sorte, un petit peu manipuler ses frères, c'est vrai. Je pense qu'on peut appeler cela de cette façon, une manipulation. Joseph va plutôt les tester, et les tester assez rudement, c'est vrai, mais il va les éprouver sur le plan moral, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Encore une fois, ce n'est pas pour leur faire du mal, c'est pour les ramener, en quelque sorte, à la raison et ramener la famille ensemble. La famille était divisée. Joseph était haï de ses frères. Et le voilà premier ministre de l'Égypte. Comment va-t-il réagir? Comment va-t-il rétablir ce sens de respect entre lui et ses frères? Notons bien qu'en tant que chrétiens, nous n'agissons pas de cette façon, ni dans nos familles, ni dans la congrégation, bien entendu. L'apôtre Pierre nous encourage, au contraire, à adopter une attitude différente. Enfin, tout dépend du temps et des circonstances. Dans la vie de Joseph, c'est quelque chose de vraiment très particulier. C'était le premier ministre de l'Égypte. Mais Pierre dit ceci dans sa première épître, chapitre 3, verset 9. 1 Pierre 3, 9. Il écrit, « Ne rendez point le mal pour le mal ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Donc prenons garde de ne pas infliger de telles leçons à nos frères et sœurs, ni dans nos familles, ni dans la congrégation, ni même parmi nos prochains, parmi nos voisins. Comprenons bien que, dans le cas de Joseph, Joseph avait une position d'autorité exceptionnelle, déjà, pour commencer. Ce n'est certainement pas le cas de parmi nous, c'est quand même un cas absolument exceptionnel. il avait reçu le droit d'agir comme bon lui semblait, à sa guise et dans tout le royaume. Et nous voyons que dans ce qu'il va faire, Joseph va, surtout, il ne va pas abuser de ce pouvoir, loin de là. Il aime ses frères et sœurs, ses frères notamment. Il aime sa famille, il aime son père, il aime toute sa famille, et il leur veut du bien. Ça va être dur, ça va être rude, mais il va y avoir, au final, une leçon positive. Nous avons, nous, en tant que chrétiens, la responsabilité d'élever nos enfants dans le respect de Dieu, dans le respect des lois de Dieu, certes, mais nous ne voulons pas non plus irriter nos enfants, par exemple. Notre responsabilité, à nous, aujourd'hui, est beaucoup plus humble que celle de Joseph. Nous ne pouvons pas nous permettre de dominer sur quiconque, je le disais, ni dans notre famille, ni dans notre congrégation, ni en dehors de nos familles. Et concernant, j'en parlais, concernant nos enfants, nous avons cette responsabilité dont l'apôtre Paul parle dans l'épître aux Éphésiens. Paul s'adresse aux pères de famille et il leur écrit ceci. Il leur dit, « Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc un enseignement, une correction, une éducation, trois éléments actifs et positifs qui sont illustrés ici, l'éducation, la correction et l'instruction. Donc ces trois éléments combinés dans ce verset, tels qu'ils nous sont expliqués dans la première épître de Pierre, nous font comprendre qu'il y a là quelque chose qui va remplacer avantageusement des comportements destructeurs, des comportements comme par exemple l'oppression, les sautes d'humeur, l'égoïsme, etc., etc. Donc ces frères, les frères de Joseph, vont être confrontés à leur propre conscience dans tout ce qui va se produire pour leur propre bien, pour leur propre bien. Et je dirais même une confrontation avec leur conscience, même après toutes ces années passées. Dans Genèse chapitre 42, versets 16 à 17, Joseph prend la parole, il s'adresse à ses frères, il leur dit « Envoyez l'un de vous chercher votre frère et vous resterez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, dit-il, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions et il les mit ensemble 3 jours en prison. » 3 jours, pas 3 années ou plus. Non, il les met en prison 3 jours. Alors imaginez un petit peu l'état d'esprit dans lequel ses frères se trouvent. Ils ne devaient pas être très fiers d'eux, ni même très... Ils se demandaient en quelque sorte comment les choses allaient tourner. Et à cause de ses frères, qui se sont débarrassés de lui, Joseph a été vendu comme esclave en Égypte. Et donc son destin l'a amené ensuite à être injustement jeté en prison où il est resté enfermé plusieurs années. Ici, Joseph n'envoie ses frères en prison que 3 jours. 3 jours. Ensuite, Joseph prend soin de les rassurer. Il va leur dire ceci. Je crains Dieu. Je crains Dieu. Donc là, ses frères vont se dire, bon, on a affaire quand même à quelqu'un qui est droit, qui est juste, qui a été offensé par des circonstances que nous ne comprenons pas, mais enfin, quoi qu'il en soit, il pense que nous sommes des espions, mais il craint Dieu. Joseph ne va pas leur faire du mal, à condition, dit-il, que vous m'ameniez votre jeune frère Benjamin. Alors là, ils sont terrorisés, évidemment. Nous savons que... Joseph veut voir leur attitude, il veut voir leur réaction, et il veut aussi les inviter à changer d'attitude, à avoir une attitude beaucoup plus humble. Leur attitude, dans une situation éprouvante, ils vont être éprouvés, il veut voir le meilleur comportement de ses frères. Il désire voir cette unité. Moi, j'ai vécu ces choses-là. J'aimerais voir comment mes frères vont réagir dans la même situation. Nous commençons à comprendre le pourquoi des actes et des attitudes de Joseph. Tout cela est motivé par l'amour familial. Joseph veut voir le meilleur comportement de ses frères ressurgir au milieu de l'épreuve, en dépit de leur mauvaise attitude du passé. Leur conscience ne tarde pas, en effet, à les tarauder maintenant. Et verset 21, ils reconnaissent leur culpabilité. Le merveilleux processus du repentir est en marche. Un changement d'attitude à 180 degrés. J'étais fier, maintenant je connais l'humilité. Certes, c'est désagréable sur un plan humain, mais regardez le produit. Regardez ce qui est fait, à quel point c'est appréciable. Ils se souviennent maintenant de ce qu'ils ont fait à leur jeune frère, Joseph, sans réaliser encore que Joseph est justement là, devant eux. Et il est bien vivant, il pense que Joseph est mort. Ruben et ses frères pensent que Joseph est mort. Ils parlent de son sang qui nous est redemandé. Ils pensent que la divine providence est en train de précisément agir sur eux et de redemander le sang. Le sang de Joseph. Ils commencent à craindre la punition de Dieu dans leur vie. Joseph renvoie ses frères auprès de leur père afin qu'ils prennent soin de lui et de sa famille. Et là, on voit le soin que Joseph prend de sorte que, précisément, il puisse retourner prendre soin de son père, prendre soin de sa famille. Il part au plus pressé. Il voit les urgences, il sait très bien que la famille est dans le besoin de nourriture, et donc il bénit ses frères, il les renvoie vers son père. Et au fil du texte, on prend note que les frères de Joseph se retrouvent dans une situation de plus en plus coupable, de plus en plus inconfortable, embarrassante et surtout dangereuse. Ils s'aperçoivent que les choses désormais peuvent tourner très mal pour eux. Évidemment, tout ceci a été habilement calculé par Joseph, mis en scène pour tester ses frères. Il se joue d'eux, certes, oui, mais avec beaucoup de bonté et dans un but. Ce n'est pas gratuit. On le voit très bien au fil du texte, l'angoisse monte, l'humiliation atteint des sommets pour ses frères, leur attitude change dramatiquement, la vérité se fait jour. Et dans tout cela, Joseph n'a aucune intention, je le répète, de leur faire le moindre mal. Il n'y a pas d'esprit de vengeance. Ils ne savent pas encore ce qui se passe. Le moment où Joseph va leur révéler sa véritable identité approche, Joseph voit la détresse de ses frères, il imagine même la fin de la vie de son père à la nouvelle de son plus jeune frère resté en Égypte, et là, Joseph ne peut plus se contenir. L'amour prend le dessus, le moment des retrouvailles est imminent, Joseph enfin se fait reconnaître. L'émotion est trop forte, tant d'années de souffrance, tant d'années de privation cessent brutalement. Les nerfs craquent, les pleurs, les larmes, les cris, les débordements émotionnels sont indescriptibles. Indescriptibles. Le fruit de tant d'années de souffrance. Toutes ces clameurs résonnent dans la maison de Pharaon, dans la maison royale. Le roi est mis au courant, que se passe-t-il? Et quand il apprend que la famille de Joseph est là, il les couvre de bénédictions. De toutes sortes, il les accueille, il fait émigrer cette belle et précieuse famille. Le père peut venir enfin en Égypte, tout le reste de la famille restait dans le pays ravagé par la famine, dans le pays de Canaan. L'histoire en arrive à ce moment-là à son épilogue. Alors je le répète, ce texte dans Genèse 41-45 est absolument magnifique. L'histoire de Joseph est sans conteste l'un des récits bibliques les plus intéressants pour l'humanité, au profit de l'humanité, car il évoque, je le disais, des scènes qui auront lieu dans l'avenir, au moment de la résurrection, quand nous-mêmes nous serons mis en présence de tous nos chers disparus, de nos familles, des membres de notre famille que nous n'avons jamais connus, dont nous avons peut-être vu ces photos en noir et blanc, et puis de toute la descendance. Nous les reverrons. Après tant d'années de souffrance, après tant d'années de privation. Et Joseph a donné l'exemple de la signification du caractère spirituel converti d'un vrai serviteur de Dieu. L'Épître aux Hébreux, que j'avais évoqué en début de sermon, dans son chapitre 11, mentionne donc le nom de Joseph aux côtés des grands héros de la foi, au verset 22, Hébreux chapitre 11, verset 22, je le relis, « C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. » Mettons-nous un instant à la place du rédacteur de l'Épître aux Hébreux. Il y est question, nous le savons, de foi, c'est le chapitre 11, le chapitre de la foi. Quand vient le moment de décrire un acte de foi pour une personnalité particulière de l'Ancien Testament, et en particulier pour Joseph, qu'auriez-vous choisi? Qu'auriez-vous choisi? La foi de Joseph. N'a-t-il pas fait de preuve de foi quand, lorsqu'il était emprisonné pendant plusieurs années pour une injustice, même face à l'oubli de l'officier libéré de la prison, qui pourtant lui avait promis son intervention? Eh bien, Joseph ne perd pas courage, il ne perd pas espoir, il ne perd pas la foi. N'a-t-il pas fait preuve de foi quand il espérait revoir ses frères, son père, sa famille, son jeune frère Benjamin, et bien d'autres exemples encore de foi dans la vie de Joseph? Tous ces événements ont pris du temps et il fallait de la foi pour ne pas perdre courage et pour attendre, pour patienter jusqu'à l'accomplissement de ces choses. Non, l'auteur de l'Épître aux Hébreux a choisi les ordres de Joseph au sujet de ses ossements après sa mort, pour illustrer la foi de Joseph. Dans ce verset 22, il y a en fait deux choses qui nous en disent plus sur la grande foi de Joseph. Pourquoi? Premièrement, Joseph fait mention de la sortie des fils d'Israël. Sortie de quoi? Sortie d'Égypte, bien sûr. La sortie d'Égypte, Joseph savait que les fils d'Israël, des générations plus tard, sortiraient d'Égypte. Pour aller où? Mais pour revenir en terre promise, dans le pays de Canaan, dans le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Du vivant de Joseph, sa famille représentait une petite communauté. C'était tout Israël, c'était tout Jacob. Au moment où les 12 tribus d'Israël sortent du pays d'Égypte, il est question de 600 000 chefs de famille, soit au total, en comptant les femmes, les enfants, les personnes âgées, probablement entre 2 et 3 millions de personnes. Une nation, un peuple qui n'était pas une nation et qui est devenu une nation. Deuxièmement, Joseph donne des ordres au sujet de ses ossements, donc. Après sa mort, ils doivent suivre les enfants d'Israël retournant en terre promise. Pourquoi cette instruction? Et pourquoi cette instruction serait-elle importante et que nous enseigne-t-elle? Lisons le passage dans Genèse chapitre 50, versets 24 à 25. Il s'agit du penultième et de l'antépénultième verset du livre de la Genèse, donc l'avant-dernier et l'avant-avant-dernier. Donc c'est facile à trouver, le dernier juste avant le livre de l'Exode. Genèse chapitre 50, donc le dernier chapitre, et donc l'avant-avant-dernier et l'avant-dernier verset. Chapitre donc 50, verset 24. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Et dernier verset, Joseph mourut, âgé de 110 ans, on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Encore une fois, il n'est pas question des traits de caractère remarquables dont il a fait preuve au cours de sa vie active, et plutôt de ses ordres concernant ses ossements. L'exemple de la foi de Joseph était suffisamment remarquable pour être mentionné dans le chapitre de la foi de Hébreux 11, concernant donc ses ossements. Joseph savait que l'Égypte n'était pas le pays de sa famille. Il le savait. Il savait que la descendance de son père quitterait l'Égypte un jour pour revenir en terre promise. Il avait cette foi dans le berceau familial. Qui se soucie aujourd'hui de ses ossements après son décès? Certains peuvent avoir le désir d'être enterrés dans leur ville natale ou aux côtés de leurs proches, c'est bien naturel. Mais ce n'est pas l'expression d'une foi particulière, après tout, d'une foi religieuse. C'est plutôt une préférence sentimentale pour sa dépouille, être avec ses parents. Qu'y avait-il de si spécial dans cette demande de Joseph pour que l'auteur de la lettre aux Hébreux soit incité à l'inclure parmi d'autres actes de foi profonds? Rappelez-vous le film Les Dix Commandements avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse. Rappelez-vous de cette scène grandiose des enfants d'Israël qui quittent l'Égypte après le jour de la Pâque et donc qui, avec les enfants, les vieillards, les chariots chargés de trésors de l'Égypte, avec les troupeaux, parfois avec de curieux assemblages aussi, de curieux attelages faits de briques et de brocs. Et on voit un enfant qui s'adresse au milieu de tout ça à un vieillard, et le vieillard est aveugle, et il demande au vieillard, « Mais qu'est-ce que c'est que cette procession qu'on entend et qui passe devant nous ?» Et il décrit, et le vieillard entend les chants qui sont entonnés sur des tons solennels et mélodiques. Le vieillard répond, « Ce sont les ossements de Joseph qui retournent dans son pays. » Et on voit la momie embaumée de Joseph portée par les anciens dans cette procession menée par Aaron, le prêtre. Le film représente donc ici la manière dont la demande sincère de Joseph, formulée plusieurs années plus tôt, avait été donc honorée par la nation d'Israël. Dieu les avait délivrés, comme Joseph l'avait déclaré, et donc par grand respect, ils emportaient ses ossements en terre promise. Il y a beaucoup à apprendre de ce récit biblique unique sur les ossements de Joseph. Quand on y réfléchit, Joseph avait donc atteint une grande notoriété, il avait reçu la richesse, il avait reçu le pouvoir, il avait reçu l'autorité en Égypte, il avait reçu beaucoup de choses que la nature humaine convoite âprement, nous le savons bien. Eh bien, Dieu avait donc décidé de donner avec grande largesse toutes ces choses à un homme éprouvé, Joseph. Mais malgré cet énorme succès, malgré ce statut phénoménal, Joseph n'a pas perdu de vue ni les lois de Dieu, ni ses promesses. Et déjà dans Genèse chapitre 39, verset 9, rappelez-vous, Joseph dit à la femme de Potiphar, « Comment ferai-je un aussi grand mal, l'adultère, et pécherai-je contre Dieu ?» Et plus tard, Joseph devenu puissant, il ne s'est laissé compromettre ni par la richesse, ni par son rang, sa foi est restée intacte, sa vision du plan de Dieu n'a pas été obscurcie. Au final, Joseph a vécu en Égypte une vie exceptionnelle, mais son esprit, ses pensées, ses espoirs résidaient dans la terre promise. Il était en Égypte, mais ses pensées, ses espoirs, ses projets étaient dans la terre promise. Tout cela, c'est sa foi qui l'a accompli, la foi précieuse qui vient de Dieu. Joseph a marché fidèlement avec Dieu jusqu'à sa mort et tout au long de sa vie. Il était soumis d'abord au gouvernement de Dieu et aux lois du royaume de Dieu avant même sa fidélité à Pharaon dans le gouvernement de l'Égypte. En fait, Joseph est un excellent exemple pour nous tous. Les chrétiens ne se sont pas vus promettre une terre promise physique, mais une terre promise spirituelle, le royaume de Dieu. C'est-à-dire, j'en parlais, les plus grandes et les plus précieuses promesses. Alors bien sûr, aujourd'hui, nous avons nos responsabilités dans la vie présente, nous avons des responsabilités à assumer à l'égard de notre famille, à l'égard aussi de nos voisins, de notre nation, de nos frères et sœurs dans l'Église, de nous-mêmes, mais comme Joseph, nos esprits doivent être concentrés sur la terre promise, sur le royaume de Dieu, et sur ce que Dieu promet, qui donc nous attend, je le répète, les plus grandes et les plus précieuses promesses. L'apôtre Pierre en a parlé. Il a rappelé le détail, l'importance des vertus chrétiennes, mais juste avant de le faire, il écrit ceci dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 à 4. Il écrit: sa divine puissance, la divine puissance de Dieu, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et c'est ce que Joseph a fait en nous laissant cet exemple. C'est exactement ce qu'il a fait. Il s'occupait de ses responsabilités avec zèle, avec courage, avec détermination, avec ténacité, mais son cœur était resté en terre promise. Il était là, en Égypte, mais son cœur, son espoir, son espérance pour plus tard, était en terre promise, là où sa famille reviendrait un jour, il le savait, et où lui-même attendrait déjà la résurrection, ayant ses ossements en terre promise. Alors, il est très facile, surtout pendant les périodes d'épreuve, de se laisser entraîner par les pressions, par les préoccupations quotidiennes de nos vies, de sorte que la vision du royaume de Dieu pourrait commencer à s'estomper un petit peu. Mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés hors de ce monde. Nous devons avant tout placer nos affections sur les choses d'en haut, sur ce qui est là, auprès du Père, les plus grandes et les plus précieuses promesses, et non sur les choses de ce monde, qui sont temporaires, qui sont fugitives. Cela nécessite un renouvellement continu de notre foi grâce à l'Esprit de Dieu. Il y a d'autres personnes mentionnées dans Hébreux chapitre 11 qui avaient le même point de vue que Joseph. Nous l'avons vu. Comme Joseph, eux aussi sont morts sans entrer dans la terre promise de Dieu, sans avoir reçu les promesses. Ils l'ont vu de loin. Et il est écrit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci au verset 13 du chapitre 11, Hébreux 11, 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant que eux, ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » C'est ce que nous sommes. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et comme Joseph, ils ont toujours placé le plan de Dieu pour eux, en premier dans leur cœur et dans leur esprit. C'est ce que nous devons faire. Comme Joseph, ils avaient une vision de quelque chose au-delà de leur situation présente. Donc Dieu, ainsi, n'avait pas honte de les appeler son peuple, de les appeler le peuple de Dieu. Un chrétien est avant tout un citoyen du royaume de Dieu. Nous vivons selon les valeurs et les principes du gouvernement de Dieu et nous vivons ces choses en toutes circonstances. Ce n'est pas ainsi que pense le monde qui nous entoure. Le monde est différent. Les gens justifient généralement leur comportement en se basant sur la situation, sur les circonstances auxquelles ils sont actuellement confrontés et non pas sur les lois spirituelles de Dieu, qui, elles, sont éternelles. Nous devons tous rechercher l'aide de Dieu, nous devons tous rechercher son esprit de soutien continu pour maintenir notre vision et notre comportement chrétien, en particulier alors que s'approche le temps de la fin. Joseph nous a donné cet exemple, l'exemple d'un chemin de vie centré sur les principes divins. Il l'a fait tout au long de sa vie de près de 110 ans. Cette conduite remarquable est illustrée par ses dernières volontés, sa demande sincère concernant sa dépouille. Joseph était un homme respectueux de la volonté de Dieu. Sa famille savait qu'il était juste et que Dieu les avait délivrés grâce à la foi et à la persévérance et à la patience de Joseph. Plus important encore, Dieu a montré son respect pour le genre d'homme que Joseph était. En définitive, notre Dieu créateur honorera Joseph ainsi que tout son peuple. Tous les autres hommes de foi et toutes les autres femmes de foi, en leur donnant la vie éternelle dans la terre promise du royaume de Dieu. Je vous souhaite une agréable fin de sabbat et je vous dis à bientôt.